Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Julien Bourdet, Charles Bouticourt et Cédric Châtelus. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, en direct, en public, du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, il y a Lily Bloom, Florence Colombani et Lucille Como pour parler ensemble de Hard Eight de Paul Thomas Anderson, de Mumbai Murders d'Anurag Kashyap, de Terra Franca, de Leonor Telesh. Et puis le coup de cœur de Lucille Como sera consacré à Atlal, le film de Jamel Kerkar qui est sorti en DVD chez Capricci. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Sombre Rivière de Lazare. C'est une place à gagner pour le vendredi 30 novembre à 21h. C'est au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un film réalisé il y a 22 ans. Mais la quasi-unanimité, moins ma voix, qui a accompagné la sortie de Phantom Thread, le dernier opus en date de Paul Thomas Anderson, a sans doute conduit à la sortie en salle de son premier long métrage, inédit chez nous donc, même s'il fut présenté à Cannes en 1996. Hard Eight, c'est son titre. C'est un terme de casino, bénéficie d'un beau casting, de John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, Samuel Jackson, Philip Seymour Hoffman, mais c'est bien Philip Baker Hall, grand second rôle au cinéma comme à la télévision, qui tient le rôle principal, celui de Sidney, joueur professionnel qui va former un homme qui pourrait être son fils à toutes les combines dans la ville de Reno.
If I were to give you $50, what would you do with it?
I'd eat.
How long can you eat? How long can you live on $50?
I don't know.
I would bet not very long. It's good to meet a new friend.
Oh, you took care of him?
John is a very old friend.
I think he's pretty adorable, the way he follows you around and looks up to you.
Hello.
Hi.
I don't do anything that I don't want to do. You understand?
Says you remember Jimmy. Yeah! Friend that lives up there.
I saw you playing crap over at the original Doom. Bet the hard eight for $1,000 and you pressed it to.
Stupid bet.
He thinks you don't like him.
I don't.
Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, and Samuel L. Jackson. Hard Eight.
Ça, c'est de la bande-annonce. Hein. On n'entendait pas le nom de Philip Seymour Hoffman parce qu'à l'époque, il n'était pas encore l'acteur très connu qu'il deviendra par la suite. Hard Eight, un film qui nous arrive si longtemps après sa sortie. Florence Colombani, comment est-ce qu'on le regarde ? Alors, un petit problème de micro, comme ça on commence de façon très simple. On va prendre Thomas Beau, c'est précipité, micro vert pour Florence Colombani. Alors, est-ce que celui-là marche ? Non, il ne veut pas marcher. Je crois que ce soir, il n'y a pas que des problèmes en appelant les gens au téléphone comme dans du grain à moudre. Il y a des problèmes de micro. Est-ce que le rouge, il marcherait si je tape dessus gentiment ? Rien ne marche ce soir ? Non, c'est vraiment une catastrophe. Lucille Como, est-ce qu'il marche votre micro ? Ah non, bah alors c'est très bien parce qu'il n'y a que mon micro qui marche, ce qui est quand même assez merveilleux. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais prendre mon micro et je vais le passer à Florence Colombani.
Alors, reprenons nos esprits. donc Hard Eight, un film que l'on regarde avec un intérêt plus ou moins intense selon l'amour qu'on a ou non. Pour les films de Paul Thomas Anderson. C'est très étrange de découvrir ce film si longtemps après sa sortie. D'abord parce qu'on redécouvre des visages de comédiens très connus, des visages très juvéniles. Gwyneth Paltrow, John C. Reilly. Et puis parce que surtout on voit un cinéaste en train de naître et un cinéaste qui ne donne pas du tout sa pleine mesure dans ce film, mais qui c'est un film incontestablement très prometteur. Je pense que si on l'avait vu à l'époque, on se serait dit ça. Rétrospectivement, on voit les grands thèmes hein, qui vont être les thèmes essentiels de l'œuvre de Paul Thomas Anderson, surtout dans sa première partie. Et le thème essentiel, c'est le thème du père. Alors vous avez dit un père qui forme son fils. Et en fait, c'est son fils spirituel, c'est ça le... Arnaud, vous ne pouvez pas me répondre, je vais en profiter.
Je ne peux pas parler, vous m'avez pris mon micro. Non mais alors, pendant que je parle, vous allez pouvoir récupérer ou rester là un instant. Ça va être plus simple parce que vraiment, on fait un drôle de jeu ce soir. J'ai dit former un homme qui pourrait être son fils.
Ah oui, pardon, j'avais compris son fils. Alors, je pensais que vous aviez fait ce saut, mais en effet, non. C'est une relation entre un homme qui entre deux hommes, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, qui s'invente une relation filiale pour des raisons qu'on découvre dans un dernier acte qui n'est peut-être pas, je trouve, le point fort du film. Je trouve que le film a presque un côté film de chambre, c'est presque une pièce de théâtre, il y a trois personnages principaux, c'est très dialogué, c'est écrit pour peu de lieux, on sent aussi le jeune cinéaste qui avait besoin de faire un film pas trop cher, et c'est un film de voix. Alors on entendait là la voix extraordinaire de Philip Baker Hall, c'est très très musical, c'est très fort. Et moi, j'ai été surtout frappée par la dimension de dialogue du film, c'est-à-dire à la fois l'écriture très sophistiquée et le thème du dialogue entre les générations, à la fois dans l'intrigue et clairement entre le film que fait Anderson et le cinéma des années 70. Lui, son père spirituel, c'était Robert Altman. Hein, il l'a ensuite montré avec Magnolia. Et on le sent ici. Il y a plusieurs moments où les personnages plus jeunes, donc Gwyneth Paltrow et John C. Reilly, disent « Mais je ne suis pas stupide, je suis peut-être jeune, mais je ne suis pas idiot. Je sais que toi, tu as plus d'expérience. » Et on a l'impression que c'est le jeune cinéaste qui essaie de dépasser ce complexe-là vis-à-vis de ses illustres aînés qui l'influencent beaucoup, sans doute encore trop. Et c'est un peu le film de cet affranchissement qu'on voit. Il y a quelque chose d'émouvant à voir ce film comme ça très longtemps après.
Lucille Comeau, en premier regard sur ce film Hard Eight.
Oui, la question, c'est vraiment celle de la promesse. C'est ce que je me suis dit pendant tout le film, parce que non seulement il y a en effet la question de voir un cinéaste évoluer et commencer une carrière, il y a aussi la question de la promesse que ça a dû être à l'époque pour les spectateurs en 96 qui ont vu un film a priori de malfrats qui se passe dans une ville de casino avec des enjeux de jeu, justement, et Samuel L. Jackson, un an après Pulp Fiction, dans une dimension qu'on peut imaginer assez similaire à Tarantino. D'ailleurs, la première partie qui se passe dans un diner, un face-à-face donc, entre les deux personnages principaux, pourrait être quelque chose d'un peu tarantinesque. Et en fait, toute cette promesse, pour le coup, les spectateurs qui s'attendaient à ça ont dû être déçus, puisque ce n'est pas un film de casino, ce n'est pas un film sur des malfrats. Donc on passe un peu de déception en déception, et je pense que c'est ce côté déceptif qui est vraiment tout l'intérêt du film. Il y a une scène, à mon avis, de ce point de vue qui est très intéressante et qui est un peu d'ailleurs incongrue dans le régime assez classique et simple du film. C'est que pendant le premier dialogue, les deux personnages se jaugent, et le plus jeune raconte que quand il était jeune, un jour, une boîte d'allumettes a explosé dans sa poche de jean. Et là, il y a un flashback, c'est très étonnant, parce qu'il n'y a pas du tout ce type de scène par ailleurs dans le film, qui d'ailleurs l'image est très différente, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup
plus simple.
C'est
vraiment un flashback.
Flash devant, il est dans la queue pour rentrer au cinéma, donc évidemment bon, la mise en abîme est flagrante, et en effet il y a une sorte d'explosion de petits pétards mouillés qui explosent dans son jean, dans
pas
la
si
poche.
Mouillé que ça, oui, c'est une flamme. Hein.
Voilà, mais ça avorte quoi, clairement, ouais. Tout le film qui pouvait être un film d'action, un film un peu à suspense, avorte, et à partir de là, on entre dans une atmosphère qui est quand même très lourde, très poisseuse, très glauque, dans cette ville qui est même pas Las Vegas, mm-hmm. C'est vraiment Reno, c'est même pas Las Vegas, des motels absolument miteux, des routes, des parkings, il y a rien de glamour, les filles sont trop maquillées, les serveuses sont pas très jolies, enfin il y a quelque chose de très poisseux, la musique est hyper ringarde et tout ne fait qu'aller en déception, et c'est dans l'obscurité et dans l'incompréhension que réside l'intérêt du film. Moi, ce qui m'a passionné, c'est vraiment les rapports entre les personnes, parce que je pense que là, pour le coup, ça détermine la patte de Paul Thomas Anderson, cette façon qu'il a de filmer le rapport maître-esclave le plus théorique qui soit. C'est extrêmement théorique et rhétorique, du coup, à l'esthétique. Mais moi, ça, même si je vois le geste et que je vois à quel point la mise en scène est travaillée et assez artificielle, ça me passionne vraiment. Je trouve qu'il est très fort. corps pour faire circuler la parole. La première scène de dialogue, de chant contre chant, elle est magistrale. Enfin, pour moi, c'est quand même le premier film, la première scène d'un premier film. On voyait à quel point Paul Thomas Anderson allait être un grand cinéaste.
Lily Bloom sur Hard Eight.
Oui, je suis d'accord. Il soigne, on l'a vu avec Boogie Night, il soigne ses introductions et ses fins de film merveilleusement. Moi, ce qui me touche dans ce film-là, c'est l'idée, alors pour ce grand perfectionniste, c'est un peu le film qui devait rester caché. Il y a quelque chose où sa jeunesse finalement apparaît dans ce film-là, et j'imagine que c'est une grande douleur pour lui, parce que d'autres grands réalisateurs géniaux, que peuvent être voilà, les frères Coen ou James Gray, qui ont aussi commencé dans le polar, finalement leur premier geste de cinéma était une totale réussite. Alors que là, il y a sa jeunesse qui apparaît, donc c'est un peu une souffrance, et en même temps pour nous, il y a le plaisir de découvrir l'échafaudage, sa cinéphilie, parce qu'il est encore empêtré dans sa cinéphilie. Ce qui me frappe le plus, peut-être, c'est peut-être son seul film qui se voulait être à la mode. Il s'inscrit totalement dans les films de voilà, néo-polar des années 90. On sent, vous parliez de Tarantino, Lucille, voilà, on sent Tarantino dans la scène d'introduction, on sent Reservoir Dogs. Il y a ces dialogues étirés à l'extrême jusqu'à l'absurde. Il y a, on sent aussi du Scorsese dans le maniement un peu énervé par moment de la caméra, mais... Voilà, on sent toutes ces influences, mais déjà, surtout dans la première partie du film, dans l'introduction des personnages, dans le côté hypnotique, déjà, c'est sa virtuosité formelle qui apparaît et son grand talent de disséqueur. Moi, ce que j'aime, c'est sa distance. Et d'ailleurs, parenthèse, on n'a jamais vu Gwyneth Paltrow jouer aussi bien dans aucun film, d'ailleurs. Il dissèque ses personnages, il s'y met dans une distance mélancolique, froide, mais qui fait apparaître à la fois... Donc il est très fort pour ça, mais l'hébétude tragique des personnages qui essayent de se débattre dans leur destin et l'absurde de leur situation qui le montre merveilleusement. Donc il se met à cette distance-là qui montre aussi tout l'absurde de ces villes de soi-disant festives, soi-disant voilà, et cette distance-là, cette froideur, moi m'a emporté en tout cas dans la première partie du film. Et voilà, et on retrouve aussi cette thématique forte. Alors il y a tout un jeu de correspondance avec ces films suivants qui peuvent être amusantes aussi. Cette grande figure de l'ange gardien, alors dans un premier temps un peu à la Capra, mais qui est toujours une figure ambiguë chez lui et qui va s'amplifier dans sa filmographie. Et là voilà, elle apparaît donc sous les traits magnifiques de Philip Baker Hall. Et je trouve voilà cet attachement à cette figure-là intéressante dans son ambiguïté.
Alors c'est vrai que il me semble que Hard Eight, j'ai trouvé que ça ressemblait assez peu à au cinéma qu'allait faire ensuite Paul Thomas Anderson. Je le regrette parce que moi j'ai préféré Hard Eight. Et c'est drôle que vous citiez James Gray parce que, effectivement, quand j'avais découvert L'Étale Odessa, le premier long métrage de James Gray, vraiment je trouve que c'est un film absolument somptueux, très maîtrisé. Je trouve qu'il a fait toujours moins bien depuis. Alors ça lui ressemble assez peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on voit bien toutes les influences dans ce premier film. Et moi je trouve qu'il dépasse justement l'effet de mode à l'époque de Tarantino et de Pulp Fiction pour revenir en fait à l'influence même de Tarantino qui est Jean-Pierre Melville. Et moi c'est un film que j'ai vu, Hard Eight, en pensant beaucoup à Bob le Flambeur, qui est un film que j'aime énormément de Jean-Pierre Melville, avec cette même figure de vieux malfrat, enfin homme du milieu comme ça, fatigué dans un Pigalle, lui-même fatigué aussi quand Jean-Pierre Melville le filme en descendant dans la rue avec ses caméras, donc en parrain de la nouvelle vague qu'il était à ce moment-là, et Pigalle qui était en train de changer, enfin le monde changeait à ce moment-là, et je trouve que Bob le Flambeur, que j'ai vu un nombre de fois incalculable, est un film merveilleux, et il y a vraiment ce même type de figure avec là Philip Baker Hall qui tient ce rôle. C'est vraiment un très très beau personnage. Et effectivement, l'histoire d'un impossible passage de témoin, c'est ce que j'aime bien, c'est cette ambivalence pour le coup, c'est désabusé, mais en même temps avec l'envie d'y croire encore, tout en sachant que ça va quand même pas être possible. Et moi, j'aime bien cette indécision. Lucille Comeau, vous avez plein de remarques à faire pour me contredire.
Non. Non, mais parce
qu'on est là pour ça, Lucille.
Dans le film de Melville, le personnage de malfrat, pour le coup, il s'impose comme un personnage de malfrat dès le départ. Là, ce que je trouve vraiment fort, c'est que ce personnage, on ne sait pas qui il est pendant extrêmement longtemps. Moi, ça
s'est figé. Il le porte sur lui, non ? Pour moi, c'était
limpide. En fait, c'est là, en effet, une sorte de costume avec son chapeau, son costume trois pièces. Mais il est tellement décalé, justement, et on dirait un personnage de film de Melville qui débarque dans un film des années 70.
C'est pour ça que je l'ai reconnu, alors.
Un peu crade. Oui, mais justement, du coup, c'est tellement artificiel que moi, je me suis demandé quand même très longtemps, jusqu'aux trois quarts du film, ce que ce personnage voulait vraiment aux autres. Et ça, c'est quand même ce qui fait la grande force du film. C'est que, d'ailleurs, les personnages n'arrêtent pas de se demander.
Qu'est-ce que c'est que ce bon
samaritain ? Mais est-ce qu'il veut nous baiser, entre guillemets, c'est le mot utilisé, donc à tous les termes, voilà, dans tous les sens du terme, ou est-ce qu'il veut nous aider ? Et c'est quand même quelque chose qu'on se demande jusqu'à très longtemps dans le film. Et l'espèce de pseudo-résolution de leur rapport, elle reste totalement obscure. En fait, il n'y en a pas vraiment. Ça peut être tout à fait malsain jusqu'au bout. Et moi, c'est dans cette tension-là que j'ai trouvé un intérêt au film.
Florence Colombani ?
Oui, je trouve qu'on a beaucoup parlé des pères et des origines de ce film. C'est normal, mais il faut aussi voir la suite. Et là où c'est très intéressant, c'est que là où Paul Thomas Anderson a fait une sorte de suite à Hard Eight, c'est avec The Master. Parce qu'en fait, c'est le seul film, je trouve, dans sa filmographie, où il reprend vraiment cette espèce de duo. Et d'ailleurs, il y a un passage de relais, puisque là, Philip Seymour Hoffman apparaît dans un tout petit rôle et il devient la présence écrasante et omniprésente de The Master.
Et grandiloquente.
Et ce qui est assez effrayant, c'est que dans The Master, il dépouille totalement ces mêmes personnages. Je pense qu'on peut vraiment les rapprocher de toute tendresse, de tout affect. Et alors que ce qui est très beau dans Hard Eight, c'est qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour qui passe
la
entre les hommes.
Beaucoup,
Et je trouve que John C. Reilly, notamment, est un personnage assez affectif. Alors, en même temps, un peu idiot, décalé. Enfin, on peut le qualifier de plein d'autres façons. Mais il y a quelque chose d'une forme de tendresse chez lui. Il y a une scène où les deux personnages se disent « je t'aime » au téléphone, qui est vraiment émouvante. Et donc, je suis assez frappée par cette évolution du cinéaste qui, en allant vers toujours plus de contrôle dans sa mise en scène et toujours plus de stature à Hollywood, c'est en fait déparé de l'affectif. Et donc, c'est ça qui est assez émouvant dans Hard Eight.
Elle est tellement pas d'accord ici, alors que moi, je comprends pourquoi j'aime de moins en moins Paul Thomas Anderson.
Je trouve au contraire qu'il est moins rigide dans la mise en scène. Je vois moins d'effets dans Phantom Thread et je trouve que relation...
Je parle pas de Phantom Thread.
Oui, mais alors justement, c'est quand même son dernier film.
Dans moins d'effets dans la mise en scène,
je trouve,
il n'y a que ça.
Non, parce qu'il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens.
Non, je parle pas des moyens.
Ah non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que la mise en scène est. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Oui, bon, on va pas refaire ce débat. Non, mais dans Phantom Thread, par exemple, la relation qui existe entre eux, donc ce créateur de génie, c'est l'histoire d'un créateur de mode, et une jeune femme qui est au départ sa mannequin, puis qui devient davantage que ça. Pour le coup, moi je trouve qu'elle aboutit totalement, de manière à mon avis plus intelligente, parce que The Master, je trouvais ça un peu écrasant. Cette première relation, c'est vraiment, voilà, ce truc du. C'est assez simple, de dialectique maître-esclave, vraiment très primaire, mais qui réussit à transformer en cinéma de manière exemplaire. Enfin, moi, je vois ça nulle part ailleurs. Et même au théâtre, où c'est vraiment l'enjeu, souvent, je vois jamais ça, quoi. Je trouve ça vraiment très, très bien fait.
Allez, un dernier mot de Lily Bloom sur Hard Eight.
Oui, c'est peut-être une petite note d'humour, parce que son humour est très, très visible dans le film, ne serait-ce que par le fait que ce sont vraiment des malfrats un peu minables. Il construit une figure presque de parrain pour un type, finalement, qui n'a que 6000 euros cachés dans sa chambre d'hôtel. Ce côté un peu minable, moi, m'a touchée, et c'est son humour désespéré, voire un petit peu suicidaire, qui m'est apparu dans ce film-là et qui a un petit peu disparu. Mais encore une fois, alors à l'inverse, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'aspect crépusculaire, austère, presque puritain, avec ses questionnements sur la rédemption, et qu'on a retrouvé dans les films que j'ai préférés de lui, dans ses aspects arides, que ce soit There Will Be Blood ou le dernier Phantom Thread que vous avez détesté, mais qui pour moi était un chef-d'œuvre absolu, et qui moi m'a envoûté et suivi pendant des mois. Je dis ça pour vous
acheter. Suivi, attention, il est derrière. Et on aura appris qu'il était visionnaire, puisqu'il avait déjà 6000 euros en 96 dans sa chambre d'hôtel. Merci, Lily Bloom, pour cette nouvelle preuve du génie de Paul Thomas Anderson, dont on peut voir en France, enfin, le premier long métrage, Hard Eight, à suivre dans la dispute. Les Mumbai Murders d'Anurag Kashyap, Terra Franca de Nortelès, et puis le coup de cœur de Lucille Como pour Atlal de Jamel Kerkar.
La dispute, France Culture. La porte.
Suite de cette dispute cinéma, toujours en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Nous vous attendons tous les vendredis. Nous sommes heureux de voir les visages de certaines de nos éditrices, de certains de nos auditeurs. On va parler maintenant de Mumbai Murders d'Anurag Kashyap. On avait découvert en France le cinéaste indien. En tout cas, moi, je l'avais découvert en 2012 avec la sortie du diptyque Gangs of Vaisseypur, saga d'une vendetta sur trois générations. C'est un binôme, cette fois, qui est le ciment du récit. Un serial killer et un flic, évidemment, obsédé par le dit serial killer.
Oui, non. नौ जन को मारा हाँ नौ
मत कर मैं तुझे बोल रहा हूँ ना मत कर
तीन मित्र नजर एक आदमी उसकी दूसरी बीवी और छोटा बच्चा
सर रमन नाम है उसका कभी अपने आप को रमन बोलते हैं कभी राम और कभी रावण
वो रमन राघव था ना वो भगवान जिसको बोलता था उसको मार देता था नंबर एक का दूत था वो यमराज का साहब
उन तो आपको रोज देखता है बाहर बैठता है तो रोज आते जाते देखता हूँ इसका काम है भगवान की गलती को दूर करना अपन भी तो वही करता है तो इस मामले में तो हम सेम टू सेम हुए यमराज का दोस्त मतलब पर मैं बराबर देखता है आपको
मुंबई मर्डर्स j'ai pas encore vu ce film que j'ai très envie d'aller voir mais je sais pas si ce week-end ça va être un peu compliqué mais j'ai envie d'y aller est-ce que j'ai raison ou ai-je tort Lucille Como d'aller voir Mumbai Murders.
Alors, il faut s'accrocher un peu. Il faut être en forme.
D'accord.
Alors, c'est un film qui est assez
Je suis très en forme. Ça va.
Bon, bah alors, tant mieux. Bon, parce qu'il faut
je suis prêt.
Ouais. C'est beaucoup moins long, évidemment, que Gangs of Wasseypur, qui était en fait un diptyque. Donc là, c'est un film qui est assez classique, mais on sent qu'il a quand même voulu mettre pas mal de trucs dedans. Donc ça fait écho, c'est inscrit en exergue à un fait divers qui a secoué la ville de Bombay dans les années 60, un meurtrier qui a tué, je crois, 40 personnes en assez peu de temps. Seulement, cet exergue, on nous indique que ce n'est pas... Enfin, voilà, l'histoire est rappelée, mais ce n'est pas l'histoire de ce meurtrier. Donc il y a un truc un peu paradoxal. On sent que le réalisateur a voulu d'emblée se débarrasser du carcan du fait divers et de fait, vraiment ça déborde à tout point de vue, donc c'est assez fascinant je trouve comme film, très fatigant aussi vraiment à la vision. C'est à la fois, vous l'avez dit un peu dans le résumé, un film de descente aux enfers d'un flic, ce qui est une forme assez classique, voilà, un flic qui prend beaucoup de drogue, qui va dans des clubs, qui ramasse un peu des filles, qui garde plus ou moins auprès de lui, voilà, qui a des problèmes avec ses parents. C'est aussi un film donc de tueur en série avec les motivations du tueur, la famille du tueur. C'est un film de captivité. Il y a toute une grande séquence qui pourrait être un film en soi, qui est une scène de captivité d'une famille entière. Voilà, qui ça va pas très bien se passer pour eux.
Mais en dites pas
le
trop.
Le tout, hein, non, mais c'est franchement assez évident. Il y a le tout est porté en effet par cette espèce de structure du pacte faustien qui se met d'emblée en place entre les deux personnages de flic et de meurtrier dès le départ. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. En fait, à mon avis, le problème qui est à la fois sa richesse et le problème du film, c'est que il y a tous les genres sont convoqués, à la fois à l'échelle du scénario et aussi à l'échelle de l'image. Donc il y a plein d'images très très pointées vers des genres très précis, notamment donc le tueur tue la plupart du temps avec un pied de biche, et donc il y a des scènes à ras le trottoir dans l'obscurité avec le pied de biche qui racle le long du trottoir. Bon, comme ça, des choses qu'on a beaucoup vues et qui sont à la fois assez plaisantes et en même temps un petit peu fatigantes à la longue.
Est-ce moi, ce qui m'a comédie musicale ou pas?
Bah oui, de fait, il n'y a pas vraiment de comédie musicale, mais il y a beaucoup de musique. D'ailleurs, la musique est surtitrée, les chansons sont surtitrées, ouais, notamment une de celles qu'on entendait dans la bande-annonce pour montrer l'importance aussi des paroles
c'était
de la chanson.
Dans Gang of
voilà,
qui, déjà,
exactement, ouais. Qui mime l'action, notamment pendant cette fameuse longue séquence de captivité. En fait, moi, le vrai problème, parce que à la limite, le côté baroque, extrêmement foisonnant, me gêne pas tellement. C'est plus la question du point de vue, parce qu'on a donc deux personnages dont le point de vue hésite hésite en permanence entre les deux, et du coup, même du point de vue du genre, on hésite tout le temps entre le film noir où du coup la licence morale est totalement possible, puisqu'on se fiche absolument de la résolution et de, au fond, qui est bon, qui est mauvais, et le thriller classique où la question c'est l'efficacité et la résolution. Donc du coup, on est ni dans l'un ni dans l'autre, on a ni l'intérêt vraiment de l'un, à savoir le truc un peu flottant, ni l'intérêt de l'autre, à savoir l'enquête, le suspense et la résolution. Donc, à la fois, on est rempli et on reste un peu sur sa fin, à mon avis.
Lily Bloom, regard sur ce Mumbai Murders.
Oui, pour moi, ça a été assez pénible de voir ce film. Alors oui, effectivement...
Pour quelle raison ?
Pour plusieurs raisons, bon, au-delà de son extrême violence par moment, effectivement, il y a un côté à la fois virtuose et brouillon. C'est assez difficile parce qu'on a peu de films qui nous reviennent de l'Inde, donc on a peu de références aussi. Donc on prend cet objet, voilà, un petit peu, on essaye d'attraper un bout. Alors c'est une sorte de cousin indien de Danny Boyle qui aurait vu beaucoup de films de David Fincher et qui aurait décidé de faire un film avec des contraintes bollywoodiennes. Enfin voilà, il y a un côté esthétiquement qui est difficile à attraper un petit peu dans les références. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement sa relation à la décadence actuelle de l'Inde. L'image de l'Inde s'est fracturée un petit peu dans l'image à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris donc cette figure du serial killer des années 60, Raman Raghav, et il l'a dédoublé en deux personnages pour mieux parler finalement de la schizophrénie de l'Inde. Ce sont comme deux démons, deux âmes sœurs, comme il le dit. Alors c'est la partie crypto-gay qui est un petit peu complexe dans la troisième partie.
Ah, il y a ça aussi.
Du film, voilà.
Il y a tout.
Voilà, donc deux âmes sœurs. Deux âmes sœurs maléfiques, deux âmes malades, et finalement il prend la figure du serial killer qui tue. Alors on pense à schizophrénia de Gerhard Karl, j'arrive pas à prononcer son nom, Gerhard Karl. Bon, je n'arriverai pas la deuxième fois, donc on abandonne. Mais donc voilà, de schizophrénia, il part pour tuer. Donc c'est très effrayant. Il y a ce côté bras armé d'un dieu vengeur. Il y a d'un côté donc cet homme qui tue, qui fait un geste à un moment qui est intéressant, qui est presque enfantin, mais qui place ses mains sur ses yeux comme pour créer des jumelles pour regarder le monde. Alors qu'est-ce que c'est la figure de serial killer ? C'est un miroir d'une société en pleine décadence. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde la décadence de l'autre personnage, donc son âme sœur, qui est un policier en pleine chute, en plein abîme. Et c'est finalement quand ce policier va arriver, qui va toucher vraiment le fond du fond, qu'ils vont pouvoir véritablement se rencontrer enfin, quand ils sont à égalité, finalement, quand c'est quoi ? Quand il ne reste plus rien de la morale, plus rien des valeurs indiennes, quand vraiment il n'y a plus aucun espoir. Donc c'est vraiment noir, mais finalement c'est la partie qui m'a le plus intéressée dans cette descente aux enfers, très labyrinthique aussi dans Bombay, c'est de voir une Inde qu'on voit, alors évidemment pas dans les films bollywoodiens, mais l'inceste, voir la violence faite aux femmes, voir cette noirceur-là, moi ça m'a intéressé. Au-delà de certaines scènes dont je sortais par moment pour me protéger d'une violence parfois gratuite.
Florence Colombani, votre regard enfin.
Alors moi, pour contre toute attente, ce film m'avait pensé à Aprile de Nanni Moretti.
D'accord, maintenant vous allez devoir développer, parce qu'après ce que viennent de dire vos consoeurs, j'ai du mal à comprendre.
En fait, il y a une scène que j'aime beaucoup dans Aprile, où Nanni Moretti explique à sa femme l'intrigue de Heat de Michael Mann, qui était sur les écrans à l'époque. Et il résume le film et il lui dit voilà, c'est un gangster et un flic, et il donne des tas de détails sur chacun, et ensuite il dit bon, et à la fin on se rend compte que c'est exactement la même personne. Et en fait c'est l'intrigue et puis la pensée de ce film de Mumbai Murders. Et je me pose vraiment la question de pourquoi certains films indiens hors de la production bollywoodienne arrive comme ça chez nous, parce que...
Il est arrivé via la quinzaine des réalisateurs,
oui,
en l'occurrence.
Oui, c'est les questions de sélection dans les festivals.
C'est pourquoi tel sélectionneur estime que celui-là doit arriver.
Que celui-là, parce qu'on a l'impression que c'est comme une mini-fenêtre ouverte sur une cinématographie, et on n'arrive pas à penser que ce soit forcément ce cinéaste-là qui mérite plus qu'un autre, enfin, mais peut-être à tort. Hein, mais en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a un peu laissé perplexe, notamment à cause de cette surstylisation qui finalement ne dit pas grand-chose, et cette surécriture des personnages, cette surmotivation de chacun, pour nous dire finalement, ah mais c'est la même chose, l'un est le miroir de l'autre. Bon, c'est un peu court finalement, autant d'effets pour cette ligne-là de message. Alors moi aussi, comme Lily, j'étais assez intéressée par la fenêtre sociologique, et notamment sur le thème de la violence, enfin du rapport aux femmes, de la violence conjugale, et aussi tout simplement du traitement des femmes comme objet. Mais je peux pas dire que le film non plus propose tellement une réflexion. C'est plus presque par accident et aussi par les mécanismes classiques du thriller que les femmes se retrouvent comme ça, un peu mises en avant, comme des objets de torture, de violence.
Bon, ça a l'air sympa, ce Mumbai Murders. Non, mais, en vous écoutant, ça me fait penser à quelqu'un qui a disparu des radars ou des miens. En tout cas, c'est John Woo. Enfin, il y a quelque chose qui se rapproche, parce que dans ce que vous dites, je vois des images qui ressemblent à celui de ce cinéaste hongkongais parti aux États-Unis. On a des nouvelles d'ailleurs de John Woo ou pas?
Pas que je sache.
Pas que je sache, mais qui a quand même beaucoup influencé le monde, lui aussi. Hein.
Oui, et puis lui, sur un registre beaucoup plus virtuose. Là, le problème, c'est que on sent ce désir de faire un objet. Baroque, synthèse de tout un tas d'influences, et puis un film un peu postmoderne, un film qui reprend un motif très travaillé et qui le réfléchit, mais sans la virtuosité de mise en scène qui accompagne depuis De Palma ce genre de projet-là.
Il n'a pas les moyens de son ambition, ce cinéaste.
À mon sens, non.
Lucille Como.
En fait, en vous écoutant, Florence, je me pose vraiment la question, c'est une question assez intéressante, de justement comment ce film nous arrive et à quel point c'est articulé au fait qu'il soit aussi rempli de références au cinéma, disons, occidental. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie des codes, parce que là, j'ai cité plein de genres et plein de choses que moi, je connais. Mais il y a en effet, à mon avis, plein de choses qui nous échappent, mais totalement. Bon, la musique, on connaît un petit peu parce que j'ai vu quelques films de Bollywood, donc je vois un peu comment ça peut fonctionner. Mais il y a aussi énormément de ralentis à des moments qui, pour nous, parfois sont incongrus. Il y a plein de choses comme ça qu'à mon avis on comprend pas en étant des spectateurs qui ne connaissent
codes,
pas. Voilà, exactement.
Pas les
et bon, à la limite, tant mieux. Moi, justement, la question sociologique à la limite, m'intéresse pas du tout parce que je trouve que c'est bien qu'au contraire on voit des films sur l'Inde qui soient pas des films sur l'Inde. Enfin, je sais pas comment dire, mais en effet, ce qui est
cinéma.
Très intéressant, voilà. Et ce qui est très intéressant, je trouve, au-delà de la question de la femme et de la représentation des femmes dans le film, c'est Bombay en tant que ville. Parce que pour le coup, il y a quand même des scènes qui, à mon avis, à mon sens, sont les plus réussi, qui sont des scènes pour le coup assez classiques de course-poursuite dans Bombay, avec des effets de niveau de la ville qui s'étend, donc à la fois dans la longueur et dans la largeur de manière assez exponentielle, mais également, il y a des scènes de bidonville,
hein.
Voilà, mais également dans les profondeurs, il y a
Bombay,
plusieurs
hein.
scènes, voilà, il y a une scène notamment où, je reviens au pied de biche, je suis complètement obsédée par le pied de biche, mais où le personnage du meurtrier a perdu son arme, il veut se refaire courber un truc de métal pour pouvoir tuer les gens mieux. Et donc, du coup, il va vraiment dans le ventre de la terre, quoi, dans les profondeurs les plus organiques de la ville, pour se faire recourber un truc qu'il a trouvé. Et là, c'est quand même assez saisissant. Je trouve ces scènes de forge qui rappellent même des romans naturalistes et classiques. C'est assez impressionnant. Donc, Bombay est présente vraiment sous une forme qui m'intéresse, qui est géographique et organique, comme une sorte de matière cinématographique intéressante. Pour le coup, ça c'est une des choses qui m'est restée, en tout cas, du film.
Je suis d'accord avec Lucille sur ces moments où le tueur cherche ses proies et il est dans les bidonvilles. Et ça, c'est les moments où on approche même d'une sorte de poésie nocturne dans le rapport à la ville qui pourrait être assez belle, mais qui est presque tout de suite tuée par un effet visuel, une chanson surtitrée. Enfin, il y a presque tout de suite quelque chose pour casser. Il fait pas assez confiance aussi au temps du plan.
Lily Bloom.
Oui, effectivement, moi j'ai été plus marquée parce qu'il y a deux esthétiques qui se confrontent, qui sont liées au personnage. C'est l'esthétique hypnotique, errante du tueur sanguinaire, et au contraire, celle très coquée, cocaïnée du personnage du policier, qui m'a moins intéressée, ce côté stroboscopique. Effectivement, cette errance est très belle, avec des scènes hallucinantes qui vont toucher des zones, des peurs archaïques, comme quand il apparaît sur un toit de maison alors que la vie continue dans la ville, et puis d'un seul coup c'est vraiment la mort qui rôde et qui va frapper au hasard un individu totalement innocent, une mère de famille. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup plu. Après, je suis d'accord, si il n'y avait pas cette distance entre guillemets culturelle, je pense que si c'était un cinéaste français, on assassinerait le film pour son mauvais goût, je veux dire, voilà, par sa par des choix qui sont complètement aberrants, musicaux. Enfin voilà, il y a cette distance avec le fait qu'il soit indien et qu'on ne comprenne pas totalement la culture indienne dans ce qu'elle induit au cinéma, qui nous donne une forme de, voilà, parfois de complaisance peut-être. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai, par exemple, au niveau du découpage en chapitres, que c'est assez faible. Même ça brouille inutilement par moments. Il a beaucoup de défauts tout de même, au-delà des virtuosités, ce film-là. Et même l'enquête en elle-même n'est pas si fouillée que ça, elle est assez... Enfin, je pense que si on la mettait à plat sur une feuille, on se dirait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?
Ça, c'est souvent le cas.
Ce policier...
Il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour ça. Bon, Lucille Comeau, pour finir sur Mumbai Murders.
Encore une fois, je pense qu'il y a un problème de temps, en effet, tout est compressé dans un format à l'occidental. Là, les films indiens, on sait que ça peut durer 3-4 heures, qu'il y a des entractes. Donc, à mon avis, il y a un truc qui est compressé. Et par ailleurs, il y a aussi, on n'a pas parlé des acteurs, mais à mon avis, un très très grand déséquilibre, en tout cas, à nouveau, pour nous, spectateurs occidentaux, entre les qualités d'acteurs des deux personnages qui sont censés être un peu au même niveau, puisque ce sont les revers de la même personne.
Pour vous, c'est pas le cas.
Le serial killer, je ne sais plus son nom, mais c'est quand même, pour le coup, un acteur assez impressionnant, même physiquement, enfin, il dégage quelque chose qui reste, alors que le flic, c'est une sorte de bellâtre, pour le coup, de Bollywood, très beau, qui n'a aucun intérêt. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre entre les personnages qui contredit totalement le propos du film, et ça, bah, c'est. Ouais, c'est dommage.
C'est au détriment de Mumbai Murders d'Anurag Kashyap, mais au moins, je sais quoi vous offrir à Noël, Lucille Comeau, un joli pied de biche. Et Lucille Comeau, vous aurez reconnu le jingle qui annonce le moment du coup de cœur. Et ce soir, c'est votre cœur qui bat pour Atlal de Jamel Kerkar, qui vient de sortir en DVD chez Capricci.
تكلا طيح قدام مديني لي والو ترميني برك نعنق نقل القمر شريكي كوبي لي القمر الاكسجين من عنده هكذا خير من هنا كوبي والك الدولة ايوي
Atlal de Jamel Kerkar vient de sortir en DVD chez Capricci, Lucille Comeau.
Oui, c'est un de ces films qui a probablement pas connu une grande distribution et donc il est important, à mon avis, de voir en DVD, qui a d'ailleurs eu de grandes récompenses, notamment un grand prix au FID, au Festival Marseillais. En général, c'est un gage de qualité.
Ah oui, donc toujours.
Précise, voilà. Donc c'est un documentaire que ce film Atlal, ça se passe à Ouled-Alal, qui est une ville moyenne qui a particulièrement souffert pendant la décennie sanglante. C'était en fait un lieu de passage entre le maquis et Alger, entre deux ouèdes. Donc du coup, la terreur s'est quand même particulièrement déchaînée. J'ai lu un article du Monde qui date de 2005, donc ça date déjà bien, qui montrait à quel point le temps s'était complètement arrêté dans cette ville qui avait connu beaucoup de massacres, beaucoup d'enlèvements aussi, et où la vie ne semblait pas vouloir reprendre en 2005. Et là, on est quand même plus de 10 ans après, enfin à peu près 10 ans au moment où Jamel Kerkar filme, et c'est à peu près la même désolation. Le film ouvre sur une dizaine de minutes d'images qui sont filmées à la caméra amateur, donc on voit l'image un peu sauter sur des paysages en ruine, et c'est vraiment la ruine qui intéresse le réalisateur. Mais c'est une ruine qui est assez particulière parce qu'on ne sait jamais si ce qu'on voit, parce qu'on voit beaucoup de bâtis, si c'est en ruine ou si à l'inverse c'est en construction. Et je pense que le film, l'intérêt du film et sa beauté repose beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on ne sache jamais si c'est la fin ou si c'est le début, et à l'inverse si c'est le début ou si c'est la fin. Toute fin pourrait être un début, toute mort pourrait être une naissance, et à l'inverse, qui donne une impression de mélancolie et en même temps une forme d'espoir assez particulière. Et de la même manière, la lumière du film est absolument splendide et on ne sait jamais si on est à l'aube ou au crépuscule. Il y a beaucoup de scènes nocturnes par ailleurs, et on voit, alors on voit en effet beaucoup de scènes d'architecture très simples, des plans fixes sur des lieux, et on voit également beaucoup de personnes qui sont ou totalement muettes ou qui parlent énormément. Ça, c'est assez passionnant. Bon, on voit un homme qui construit sa maison avec une petite fille qui est spectatrice, ils sont quasiment muets tous les deux. On voit un groupe d'hommes devant une mosquée qui est quasi encore en ruine, qui discutent de la décennie sanglante. C'est le seul moment où on a des éléments un peu factuels sur ce qui s'est passé dans cet endroit-là. On voit surtout un jeune homme qui, je pense, quand on voit le film, sa tête reste fixée à vie parce qu'il est extrêmement impressionnant. Un très jeune homme qui parle à plusieurs reprises, une fois pendant une très longue séquence, je pense que c'est un plan séquence. Il est face caméra et il explique à quel point, je pense qu'il a peut-être 17-18 ans, sa vie pour lui est presque déjà finie. Il dit « ma vie est en ruine » dans un parallèle avec ce qui se passe autour de lui. C'est une sorte de litanie, il n'y a jamais d'intervention de la personne qui est en face. Il parle à la fois du régime de Bouteflika, du fait que le terrorisme d'hier, qu'il n'a pas connu de fait, est devenu une forme de terrorisme d'État, mais tout reste assez abstrait dans sa manière d'explorer les choses, de l'exil qui est impossible mais qui est la seule solution. À un moment donné, il montre un avion, il essaye de déterminer s'il va au sud, au nord, et on comprend à quel point cette perspective est à la fois la seule et complètement bouchée. Et en même temps, c'est un personnage qui est extrêmement beau physiquement. En plus, il a des Ray-Ban, bon, on imagine qu'elles sont fausses, il enchaîne les clopes, il a un côté un peu bellâtre de film américain. Et ce contraste produit une sorte de tristesse et un attachement au personnage qui est assez saisissant. Voilà, c'est un lieu où en fait où on ne parle pas du tout parce que c'est insupportable, où on parle énormément. Il y a aussi un rôle de la musique qui, à mon avis, est lié à la question du silence. Où parfois il y a des grandes séquences où les personnages sont autour d'un feu et ils écoutent ou alors ils rappent par-dessus de la musique qu'ils écoutent sur leur téléphone portable. On sent que le rap comme litanie, comme exercice de parole, est quelque chose de très important. C'est vraiment un film magnifique. C'est vraiment un film que j'ai. Parmi les films que j'ai vus ces derniers mois, qui me restent bien en tête, à la fois la description de l'horreur, le silence, tout est supporté par la même qualité d'image, la même empathie. Vraiment, je recommande, il faut voir ce film.
Mais dans cette ambivalence que vous décrivez, Lucille Como, est-ce qu'on sort de la vision de ce film avec un peu d'espoir ?
Alors, moi, non.
Bon.
Non, je pense beaucoup que ça dépend de l'état dans lequel on le voit, du rapport qu'on a à l'Algérie, parce que aujourd'hui, tout le monde a un rapport particulier à ce pays. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, même dans la conscience française. Donc, moi, je l'ai trouvé très dur, mais je vois en quoi aussi on peut le voir et l'interpréter différemment. Et c'est ça la force, j'imagine, du film.
Bah, la force, c'est ce que la vôtre, de nous donner très envie de voir Atlal de Jamel Kerkar. Peut-être préférer ça, privilégier ça à Mumbai Murders hein, en cette fin de semaine. Il est sorti en DVD, c'est plus important, il me semble, de voir ce film. Le DVD est sorti chez Capricci.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier film à notre sommaire, hein, j'ai annoncé un tour du monde, on était aux États-Unis, on est allé en Inde, on était en Algérie, cette fois on va au Portugal avec Terra Franca, documentaire réalisé par Léonore Teles, une cinéaste portugaise, très jeune, 26 ans, qui est retournée dans sa ville natale pour y filmer le quotidien d'une famille dont le père est pêcheur, la mère tient un bar, la fille aînée prépare son mariage, la cadette, elle vit toujours chez ses parents.
Un homme devrait rester 5 ans avec une femme. Après ces 5 ans, qu'est-ce que tu fais là, Dalia ?
Quoi ?
Un homme devrait rester 5 ans avec une femme, et l'inverse.
Tu as passé des décennies avec moi, pourquoi tu es encore là ? On a déjà passé 3 décennies ensemble. Déjà 3 décennies.
32 ?
31.
Les bisous, les câlins, c'est facile. Le pire vient plus tard. Hein, Dalia ?
Le pire est le meilleur.
Avec une VF made in dispute, là, assez extraordinaire. Bravo à Sarah Duro, Boris Pino, les voix et Thomas Beau pour la réalisation de cette VF de Terra Franca. Le film n'existe qu'en version originale. Sous-titré, bien sûr, c'est Lily Bloom, elle sans doute, qui va commencer à nous parler de ce film.
Oui, alors c'est un film qui a beaucoup de charme. C'est un film documentaire qui a vraiment beaucoup de charme, mais qui m'a laissé un petit peu, moi, sur ma faim, parce qu'au-delà du charme, il a une fragilité qui, je pense, est liée à son... Comment dire ? à sa, son indécision entre faire un documentaire et faire de la fiction. C'est-à-dire, on sent vraiment l'aspiration fictionnelle de la jeune réalisatrice, mais qui s'accroche parfois au documentaire, et au lieu d'en tirer le meilleur des deux, ça s'annule pour finalement faire une chronique familiale qui est un petit peu convenue. Alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, donc c'est une région qu'elle connaît bien, c'est sa ville natale. Elle a passé 2 ans aux côtés de cette famille. Et lorsque le film débute, on est réellement happé par sa façon de filmer. Il y a une véritable organicité. Elle a passé tellement de temps avec ces gens-là, elle les connaît tellement par cœur, qu'on a vraiment l'impression que la caméra joue parfaitement avec eux. Au-delà de ça, il faut rappeler que c'est aussi une chef opératrice et qu'on sent cette sensibilité-là pour la photographie très fortement. Cela finit par s'annuler à un moment parce que dans la répétition des motifs, donc à savoir, elle filme magnifiquement, par exemple, la scène d'introduction est magnifique, elle filme Albertino, le patriarche, en une sorte de Neptune à moustache, à l'aube, dans cette lumière bleue magnifique, en contre-plongée. On est happé par la beauté de ce plan, mais finalement, il va se répéter dans le film et on va s'en lasser. Alors, comment elle compose son film? Il y a 2 couleurs. Il y a le bleu, mélancolique, celui des hommes solitaires, des cow-boys, voilà, abandonnés un peu à leur détresse, à leurs inquiétudes. Voilà, ce sont toujours des hommes très taiseux, très renfermés. Et de l'autre côté, le jaune associé aux femmes qui jacassent, qui s'occupent d'acheter un aspirateur, qui sont dans la joie, qui veulent organiser un mariage. Et ces 2 couleurs vont finir par s'associer même dans le bouquet de la mariée à la fin. Voilà, donc il y a un véritable jeu de couleurs qui est intéressant, mais qui devient lui aussi scolaire. Comment elle fonctionne? On rentre dans le film par un portrait, donc on est en 4/3, hein, pêcheur.
Carré, donc, pour
voilà, de ce pêcheur qui va s'élargir à son couple avec Dahlia, oui, sa femme. Donc c'est un couple un petit peu... voilà, un peu fatigué.
On sait pas tout de suite que c'est un couple, là, vu comment ils se parlent.
Voilà, ils se parlent très peu, on sent que le bonheur est passé, et puis quand l'organisation du mariage arrive, et bien finalement, on s'aperçoit que la joie est aussi à venir, et le portrait s'élargit sur la famille tout entière, les 3 générations. Bon. Ça a un intérêt, on se sent bien devant ce film, il y a une vraie qualité où on a l'impression de vraiment faire partie de cette famille pendant 1h20, je sais plus le temps exact, 1h22.
Soyons précis.
Mais bon, j'en suis ressortie un petit peu indemne.
Florence Colombani sur Terra Franca.
C'est vrai, c'est un bon mot, on en sort indemne. En fait, c'est un peu comme si on
c'est
lisait
dur, hein.
un roman.
C'est dur de dire ça.
Un roman naïf, un petit peu de la fin du 19e siècle. Dans la vision du monde que déploie le film, il y a quelque chose comme ça d'assez ingénu, même dans les. Mais aussi, peut-être l'intérêt, c'est de voir qu'en effet, on pourrait être il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Enfin. C'est comme si le temps s'était un peu arrêté, ou alors est-ce que c'est la réalisatrice qui veut nous montrer ce village comme étant un lieu où le temps s'est arrêté? Mais c'est vrai que les relations entre les gens, la façon dont les cycles de la vie, les saisons s'enchaînent, le rapport même aux poissons. Alors il y a des micro-incursions du monde moderne. Il y a l'idée que les sardines ne sont plus ce qu'elles étaient, hein, parce que le réchauffement climatique les a affectées et qu'elles sont plus de la même taille et qu'on peut plus nourrir autant de gens avec une sardine qu'autrefois. Donc c'est des toutes petites choses, mais ça ne débouche pas. Et c'est parce que je pense qu'elle veut beaucoup insister aussi sur ses rimes, sur ses effets esthétiques. Moi j'ai été frappée par son talent sur ce plan. Alors non seulement la beauté des plans, la beauté de la lumière, mais même le sens des cadrages. Je trouve qu'il y a des moments où vraiment on a l'impression qu'elle s'inspire des grands photographes américains. Elle a une capacité de laisser le cadre, de mettre ses personnages assez bas dans le cadre pour avoir toute une perspective au-dessus. Et ça donne des images assez saisissantes. J'ai bien aimé son utilisation de la musique qui est très inattendue. Alors, dans un film où on attendrait bêtement du Cesaria Evora, on a du Otis Redding. Il y a des choses comme ça qui sont plus surprenantes, mais le récit lui-même, et finalement c'est quand même fondamentalement un film de récit, il reste sur cette petite musique plus attendue, plus prévisible.
Lucille Como, à présent sur Terra Franca.
Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. J'aime beaucoup le film. Et à l'inverse de vous, Florence, je trouve qu'au contraire, il fait preuve d'une grande maturité. Pas pas forcément d'ailleurs d'un point de vue cinématographique, mais sur le fond de ce que ça dit, à mon avis, c'est vraiment un film sur le couple. D'ailleurs, il est assez trompeur ce film parce qu'il commence comme un documentaire sur un pêcheur. En effet, ce premier plan assez sublime sur Albertino qui est vraiment, il ressemble un peu à Edoui Plenel, mais au-delà de ça,
non,
il ressemble
aussi qui fait
à
ça.
Non, il lui ressemble quand même. Il ressemble à un acteur vraiment hollywoodien et le Taj a quand même des airs de Mississippi. On a l'impression d'un film du sud américain et en fait, ça enchaîne très très vite avec une scène dans une voiture, donc beaucoup plus trivial, dans l'obscurité avec Just the Two of Us qui passe à la radio. Et Just the Two of Us, oui, en effet, ça va être un film sur le mariage et donc un double mariage en fait. Le mariage des parents et puis le mariage à venir de la fille aînée. Moi, je le trouve justement très intelligent de ce point de vue. Je trouve que le couple tel qu'il est décrit d'Albertino et d'Alia, tel qu'on le perçoit dans tous les plis les plus triviaux et en même temps extrêmement fins quand même de leur intimité, quand ils se parlent devant la télé, quand ils parlent au moment où elle est à son travail, donc elle est un peu en représentation et la manière dont ils s'adressent à elle. Ouais. Je trouve ça extrêmement, extrêmement fin et je trouve qu'en effet, elle a un sens de où placer la caméra qui est quand même assez inédit. Enfin, moi, j'ai été assez bluffée par les plans. Et vous parliez d'aspirateur, c'est drôle parce que en fait il y a quand même quelque chose autour des objets ménagers. Donc l'aspirateur dont il est beaucoup question parce qu'elle vient d'acheter un aspirateur extrêmement cher. Donc toute la question est de savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir acheté un aspirateur aussi cher. Il y a la télévision qui est omniprésente quasiment. Et en fait la caméra c'est un peu comme un autre objet de la domesticité qu'on poserait et qui serait là d'une certaine manière pour capter tous les petits débats, tous les micro-événements, toutes les petites possibilités de la vie quotidienne. Alors que dans cette famille, il se passe quand même deux grands événements qui sont à la fois Albertino va perdre le droit de pêcher et le mariage de la fille aînée. Et ces deux événements passent complètement au second plan du film pour n'être que les jalons d'une réflexion que je trouve vraiment assez intéressante sur le couple et sur le vieillissement, assez simplement, hein, le vieillissement d'un couple.
Alors sur la perte d'emploi, c'est une perte de licence de pêche, hein, pour être précis. Moi, j'attendais quand même quelque chose. C'est pas traité, c'est une façon de le traiter. Par contre, le mariage, je l'attendais. J'étais heureux quand même qu'il arrive. Je me suis dit, à tous les coups, on va pas y avoir droit. Donc, j'étais quand même content de le voir. Mais c'est vrai que le film n'est pas vraiment arrivé jusqu'à moi. Je suis assez indemne aussi, comme Lily Bloom. Mais je retiens quand même, pour moi, c'est très beau moment de cinéma, effectivement, sur le Taj, Albertino. Dans son frêle esquif, il y a notamment un plan quasiment au milieu du film où il scrute d'une façon très inquiète la surface des eaux. On se demande ce qu'il cherche. Sans doute cherche-t-il à repérer des bandes de petites crevettes ou encore mieux des palourdes parce qu'avec ça, il fait sa journée très, très facilement. Mais il y a une très belle lumière. Et là, on arrive dans un western. Et moi, j'ai envie que le film commence à ce moment-là et qu'il a une gueule d'aventurier, une très belle gueule, Albertino. Mais ce ne sont que des scansions très belles. Il y a même il y a une fois, on ne sait pas, c'est comme pour Atal, on ne sait pas si c'est l'aube ou le crépuscule. En l'occurrence, on se doute que c'est plutôt l'aube pour le pêcheur, mais il y a un plan, on dirait un tableau de Roscoe, parce qu'il y a une découpe comme ça des couleurs qui est absolument magnifique. Sur l'utilisation des plans fixes, on l'a quand même vu assez souvent au cinéma. Il y a une efficacité, mais qui est, je dirais, assez connue. Il y a quand même toute une école à la fois photographique, mais aussi cinématographique de l'utilisation du plan fixe qu'elle maîtrise. Mais c'est pas ce que j'ai. Voilà, il y a quelque chose où je me dis, mais en fait, pardon, mais quel intérêt? Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On se dit, bon, on voit ces gens-là, ça pourrait être les voisins, ça pourrait être ceux d'après. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit des petites choses, mais qui n'ont pas fortement imprimé en moi. Mais je laisse la dernière parole peut-être à la défense, Lucille Comeau.
Oui, si, en effet, si on pense que l'ambition, comme vous le disiez Florence, est un film de récit, c'est forcément décevant, parce que de fait, la structure, elle est simple, c'est le passage des saisons, les chansons, bon, ça sert un peu à faire passer
les saisons.
Saisons
non plus, c'est ça qui m'a surpris.
Ah si, il y a quand même
peu.
Si, on voit quand même ça pour à le peine, coup, et les
ouais,
chansons, le rythme
un peu. Des manteaux,
voilà,
et après il fait chaud, mais bon. Pas non plus.
Bon, vous êtes dur quand même. Non, mais pour le coup, je pense que c'est pas intéressant. En effet, ça ressemble un petit peu, en vous écoutant, je pensais à un reportage photo, mais extrêmement beau, à de la photographie, sur un couple, voilà, de leur âge au Portugal, à cet endroit-là. Moi, vraiment, ça m'a émue. J'ai été vraiment émue par exemple, par les plans dont vous parliez. Lily, et par les personnages.
Toujours indemne.
Oui, je me suis même radicalisée un petit peu en au cours de la conversation. Je me suis dit qu'en fait, ça m'ennuyait profondément le côté réac du film. En fait, le c'est mieux avant. C'est quand on s'est mis à parler de la sardine. Je crois qu'il y a tout un discours qui m'a profondément.
Non, c'est mieux avant parce qu'avant il connaissait la fin, ce qui n'est plus le cas.
Non, mais voilà justement dans le film, je trouve que transparaît cette idée de c'était mieux avant. Le mariage, c'était mieux avant quand les femmes étaient vierges.
Non, parce que pour le coup, c'était tout le temps repris parce que les femmes arrivaient vierges au mariage. Tout le monde lui dit,
mais il y a quand même cette défense, cette idée.
Non, mais là, je trouve que c'est plutôt. Alors, je vais défendre Terra Franca parce que vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait à l'image du film, ou au contraire, qui vraiment bat en brèche ce côté traditionnaliste portugais, enfin, le côté vraiment très cliché qu'on peut avoir de la population et des mœurs portugaises. Là, c'est vraiment au contraire, on est au 21e siècle et on y est bien, Lucille.
Oui, puis le conflit générationnel, il est un peu mis en scène. Il est assez finement amené. C'est ni la jeune qui veut s'émanciper absolument, puisque de fait, elle s'entend et elle vit, elle mange avec ses parents.
Moi, j'aime bien la sœur cadette, on la voit pas assez. Hein. Non, elle a l'air super.
Elle est intéressante, mais moi, je trouve qu'on la voit assez, parce que justement, on pressent les choses, on n'a pas besoin d'en savoir davantage sur cette famille. C'est suffisamment dit et fin.
Vous attendez Terra Franca 2, vous, je suis sûr. Pour l'instant, c'est le 1 qui est en salle, le film de Léonore Télès. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion et un micro qui marche, a priori, qui nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier soir, Sarah.
La question était, quelle œuvre de Bernanos deviendra le livret d'un opéra du compositeur Francis Poulenc? Et la réponse est Dialogue des Carmélites.
Quel talent d'actrice, on l'a entendu tout à l'heure dans la bande-annonce. A gagné ce soir des invitations pour le spectacle Sombre Rivière de Lazare. C'était vendredi 30 novembre à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. La question, Sarah.
Quelle activité pratiquait-on au Palais de Glace, l'actuel Théâtre du Rond-Point, à la Belle Époque?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner à son podcast. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie d'Anna Sikalevitch, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillet. Notre affiche Crash Park, la vie d'une île de Philippe Ken en ce moment au Théâtre Nanterre-Amandier. Sœur. Texte et mise en scène Pascal Rambert à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord. Hideto Iwai présente Ware Ware no Moro Moro. C'est au Théâtre de Gennevilliers. Il y aura un coup de cœur de Marie-Josée Sirache pour les terrains vagues de Pauline Hautepin.